Let me talk!
Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Let's Geek Talk. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le week-end de football. Donc, les chroniqueurs du jour vont se présenter. Comment ça va, Jules ?
Ça va et toi, Patrick ?
Ça va bien, merci. T'as passé un bon week-end ?
Ouais, tranquille, rien de spécial.
Pas compliqué de repasser un week-end à deux jours après avoir pris le week-end de trois jours la semaine passée ?
J'ai pas capté la blague.
Parce que la semaine passée, c'était Pâques, pas de blague.
Ah non, ça va, tranquille. C'est bien, je suis au chômage, donc moi, je capte pas les trucs comme ça.
Ah, excuse, c'est vrai, pardon. Et le deuxième chroniqueur du jour, Carter. Comment ça va, Carter ?
Bah, ça va toujours bien, toujours heureux d'être présent dans les épisodes. Je pense que je suis celui qui en a fait le plus, donc ça en dit long.
Ouais, après moi, t'es celui-là, t'enchaînes, hein, deuxième titularisation, c'est normal, Ligue des Champions qui arrive, on fait jouer les titulaires. Hein.
C'est un signe.
Donc, on va passer donc aux thématiques du jour. Donc, il y aura cinq grands thèmes, comme d'habitude. On va commencer par parler du match entre l'Union et le Cercle de Bruges. Ensuite, on passera à l'autre choc entre une équipe brugeoise et bruxelloise, donc le club de Bruges-Anderlecht, avant d'aller en Europe et parler donc de Manchester United-Liverpool. Puis, on finira les thèmes par une preview Ligue des Champions et on abordera le cas du match entre Bruges et PAOK en Conference League avant de terminer, comme d'habitude, par le question-réponse des abonnés. Avant de commencer, évidemment, on va donc commencer par notre petit « on n'en parlera pas, mais ». Et Jules, justement, quelle est la chose dont tu vas parler qu'on n'abordera pas plus tard ?
Alors moi, je vais parler de Mika Götze, donc le jeune Belge qui s'impose dans une certes faible équipe de l'Ajax, mais qui s'impose quand même comme titulaire avec 4 titularisations dans les derniers matchs, dont 2 assists. Donc c'est assez cool de voir un jeune Belge performer dans un club historique comme ça.
C'est vrai, tu as choisi le bon week-end où ils prennent 6-0 par le Feyenoord, mais pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas Mika Götze, c'est qui, quel poste, d'où il vient
Alors Mika Götze, c'est un jeune Belge du coup de 18 ans qui est passé par Nerpé, départ Genk surtout, qui est parti maintenant il y a un an, je pense, en janvier de l'année passée, je pense, du côté de l'Ajax. Et voilà, c'est un ailier gauche et numéro 10 qui joue avec les U19 belges. Et voilà.
Ouais, un top joueur encore belge en Eredivisie. Maintenant, toi, Gédéon, c'était quoi le sujet que tu avais envie d'aborder aujourd'hui ?
Pour ma part, le sujet que je voulais aborder, vu qu'on ne parlera pas de Manchester City Crystal Palace, c'était simplement le match de Kevin De Bruyne, encore un match XXL, où il a montré l'étendue de son talent, où il a dominé le match, il a fait gagner City à lui tout seul. Donc voilà, je voulais en parler tout simplement parce que c'est notre compatriote. Et au-delà de deux beaux buts et une passe décisive, c'est vraiment la domination de son match dont je voulais vraiment souligner dans l'épisode d'aujourd'hui.
C'est vrai, après son match un petit peu plus compliqué face à Liverpool, non, c'était face à Arsenal plutôt, c'est vraiment rassurant de le voir à ce niveau-là. Donc maintenant, moi, le sujet dont j'avais envie de parler, qu'on n'évoquera pas, c'est évidemment, c'est le match entre Galatasaray et Fenerbahçe, diffusé sur RTL Play, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je me demande. Donc c'était la Supercoupe de Turquie. Donc il faut savoir que Fenerbahçe a envoyé donc ses U19 pour jouer le match, pour protester, parce qu'en fait le Fenerbahçe voulait un report de ce match parce que eux jouent la Conference League ce jeudi. Pourtant, il faut savoir que de base, je pense que c'est en février que la décision avait été prise de jouer ce match, les deux clubs étaient OK. Je pense que voilà, ils n'avaient pas anticipé d'être en quart de finale de Conference League. Et en plus de cela, ils voulaient en fait un arbitre non turc, car ils se sont plaints en fait du niveau de l'arbitrage en championnat et qui ne serait pas neutre selon eux. Donc le match a commencé avec les U19, sauf que il y a eu un but du Galatasaray après une minute qui eux jouaient avec leur équipe A. Donc les joueurs de Fenerbahçe ont quitté le terrain et déclaré forfait. Et là, on pourrait se dire que l'histoire elle est finie, mais en fait non. Galatasaray a continué le match en fait. Donc il y a l'équipe A de Galatasaray qui a affronté les remplaçants, qui jouaient vraiment avec une chasuble d'entraînement. Et franchement, le match passait sur Bein, et donc le commentateur a continué à commenter le match, et j'ai trouvé ça lunaire. J'avais jamais vu ça. Je me dis, là, je suis en train d'imaginer l'Union qui, pour protester contre l'arbitrage, envoie son équipe de U19 face à l'Antwerp là, pour la finale de Coupe de Belgique. Ce serait lunaire, mais bon, merci à la Turquie pour le divertissement, j'ai envie de dire. Donc maintenant, un petit peu plus de sérieux, on va rentrer dans la première thématique du jour avec le match entre l'Union et le Cercle de Bruges. Donc l'Union qui récupérait Amoura et Machida dans son 11 titulaire. Pas de Burgess suspendu, ou pas, mais on va en parler. Et McAllister, lui, de retour sur le banc, mais qui n'a pas joué. Donc, pour commencer et expliquer d'abord la situation du cas Burgess. Donc, le défenseur avait pris une carte rouge le week-end passé. Mardi, l'Union belge a proposé deux matchs de suspension ferme. Le club, pas d'accord, a fait appel. Donc, le comité disciplinaire a réduit à un match ferme et un avec sursis. Donc, ça, c'était vendredi. Donc, l'Union, bah, eux, ils étaient contents. OK, ils rataient le cercle, mais ils seraient là pour Anderlecht. Mais l'Union belge, elle n'était pas d'accord et voulait qu'il y ait ces deux matchs de suspension. Donc, elle aussi a fait appel en disant que ce n'est pas assez. Elle a prévenu samedi l'Union qu'elle ferait appel, mais elle n'a fait appel que le dimanche matin. Donc, l'Union n'a pas fait jouer Burgess en se disant bah, qu'il était suspendu un match. Sauf qu'en faisant cet appel, la suspension a été suspendue et Burgess pouvait jouer. Donc, Burgess n'a pas joué alors qu'il pouvait jouer et devrait bah, purger au minimum bah, un match de suspension face à Anderlecht samedi. Bah, donc pour commencer, qu'est-ce que vous pensez vous, de cette situation un peu ridicule, j'ai envie de dire, toi, Carter
C'est une situation belge. Voilà. Une situation qu'on n'est pas surpris de voir dans notre championnat, malheureusement. C'est la mousse publicité pour notre championnat. Après les petits scandales qu'on a eu pour les matchs qui devaient être rejoués, qui n'ont pas été rejoués, eh ben voilà, bienvenue dans la Jupiler Pro League.
Et toi, Jules, t'en penses quoi de la situation de Burgess?
Je pense qu'il a assez bien résumé, c'est vraiment une situation belge. Après, j'ai un peu du mal à savoir vraiment qui est la faute. Je pense que dans tous les cas, c'est pas pro, mais j'arrive pas à savoir si la faute vient vraiment de l'Union ou si c'est de la fédération ou... Je sais pas, j'ai pas trop bien compris l'histoire pour pouvoir me prononcer.
Ouais, c'est assez compliqué parce que j'ai entendu un peu des deux, dans le sens où l'Union, ok, n'a pas voulu prendre le risque, mais est-ce qu'à un moment, l'Union ne devait pas forcer ? Parce qu'en gros, l'Union était au courant que l'Union belge allait faire appel. Donc, ils savaient que s'ils faisaient appel, ça serait suspendu. Mais le problème, c'est que l'Union belge a prévenu qu'ils allaient le faire. Ils ont reçu trop tard la notif de « on l'a fait ». Mais ouais, je pense que voilà, il y a un petit peu des erreurs des deux côtés, mais bon, soit. On va revenir au match. Donc, seconde défaite deux défaites en deux matchs dans ces playoffs pour l'Union face au Cercle de Bruges à la maison, 2-3. Les buteurs donc sont Minda, Denki et Sommers pour le Cercle, Nilsson et Eckert pour l'Union. Après seulement 6 minutes de jeu, donc le Cercle menait 0-2. En plus, il y avait une occasion à 0-1, une grosse occasion pour Nilsson. Un Maurice que moi, hein, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve que sur le deuxième et le troisième but, il n'est pas tout blanc. Enfin, je suis pas gardien, je ne suis pas expert gardien, mais j'ai l'impression que sur ses sorties, il sort un peu n'importe comment. On a déjà vu face à Genk qu'il était coupable sur le but. Toi, Jules, est-ce que je suis fou ou est-ce qu'il y avait quand même quelque chose à faire sur les buts?
Je pense qu'il peut faire mieux, mais ce n'est pas le seul fautif, que ce soit sur le deuxième ou le troisième. Il y a des joueurs, je crois, c'est Sadiki sur le deuxième qui est un peu bizarre. La pousse hein, sur le troisième, c'est une énorme nonchalance. Enfin, il y a des erreurs un peu de la part des 11 joueurs et je ne pense pas que... Du côté de Lyon, on peut vraiment vouloir à Maurice qui sort tout de même une belle saison.
Et donc, avec cette défaite, on commence un petit peu à avoir les problèmes. Toi, pour toi, dans ces playoffs, Carter, c'est quoi le problème à l'Union?
Alors, je ne sais pas s'il n'y a qu'un seul problème, mais en tout cas, déjà dans l'épisode de la semaine passée, on en parlait. On sent une certaine fébrilité du côté de l'Union. Et je pense que la défense, entre guillemets, expérimentale qu'ils ont alignée ce week-end n'a pas vraiment aidé. Pour revenir sur le cas Maurice, dans son interview d'après-match, il a clairement dit que ben, voilà, l'absence de Burgess s'est fait ressentir et que même lui, ça lui a manqué un petit peu. Ça lui a manqué, je pense que c'est un repère dans sa défense. Et pour revenir sur le match de l'Union contre le Cercle, le Cercle a joué beaucoup de longs ballons et c'est la spécialité de Burgess. C'est voilà, c'est quelqu'un qui domine une domination aérienne, c'est quelqu'un qui domine un peu dans les airs, c'est même sa force. Et bah, ça s'est fait ressentir. Donc, pour répondre à ta question, le problème, je pense, c'est la fébrilité. Sa fébrilité. Et on en parlait la semaine passée avec Muse, c'est même peut-être aussi mental, le fait d'avoir des matchs qui comptent plus que la phase classique. Il y a peut-être un problème au niveau du mental des joueurs dans l'effectif.
Ouais, en plus de ça, on a quand même un très bon Warleson hein, du côté du cercle qui a été très bon sur les occasions de l'Union, parce que certes, ils perdent 2-3, mais ils ont eu des occasions de marquer. Nilsson, je me souviens d'au moins deux gros ratés. J'aimerais aussi revenir sur quelque chose, c'est un peu ben, quelques cadres. Donc Maurice, on l'a dit, qui à Genk, ben, voilà, il est fautif sur le but. Donc là aussi, pareil, face au cercle, il est pas tout blanc. Burgess qui a pris la carte rouge face à Genk. On a Eckert qui, j'ai pas compris là, il a totalement pété un câble sur, voilà, il a fait deux agressions sur les joueurs du cercle pendant le match sans prendre de carton rouge. Est-ce que donc vous ressentez une tension quand vous voyez les matchs de l'Union chez les cadres, et si oui, est-ce que ben, le coach peut faire quelque chose pour changer ça? Toi, Jules?
Moi, je pense que c'est un peu bizarre, mais il n'y a pas que les joueurs que tu as cités. Hein. Genre Puertas, je vois aussi un geste d'humeur contre le cercle qui n'est pas forcément habituel dans son chef. Le coach, ce qu'il peut faire, bref, il doit agir, parler avec les joueurs, les rassurer, mais est-ce que lui est lui-même dans un état de pouvoir le faire? C'est ça ma question à moi, parce que il n'a pas l'air non plus d'être totalement dans son assiette, en fait.
Ouais, en effet, pour revenir sur ça, d'ailleurs, avant le match, donc il était en conférence de presse, Blessine, il a parlé donc de l'arbitrage par rapport aux décisions défavorables pour l'Union, que les gens veulent que ce soit Anderlecht champion parce que c'est un grand club. Toi, Carter, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie Blessine? Est-ce qu'il est, on va dire, totalement perdu? Il dit un peu n'importe quoi, ou est-ce que c'est une façon peut-être de mettre la pression sur les arbitres, sur Anderlecht, en disant que ben on est un peu contre eux?
Ben t'as répondu, enfin t'as un peu répondu ce que j'allais dire. Je pense qu'ils veulent un peu retirer la pression qui ressort, parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de pression, qu'ils sont attendus, et la pression qu'ils reçoivent et qu'ils ont, je pense qu'ils veulent la remettre ben, vers les Anderlechtos, vers les arbitres en fait. Ils veulent déresponsabiliser ses joueurs et son effectif. Et selon moi, c'est pas la bonne tactique. Ces joueurs sont arrivés dans ces playoffs avec le statut de premier contender, de favori. Et c'est comme s'ils l'assument pas, en fait. Ils l'assument pas. Et je pense qu'il faut clairement assumer qu'ils sont favoris et jouer avec ce titre-là. Malheureusement, peut-être que la pression est trop sur eux ou trop pour eux, surtout. Et l'idée de Blessing, apparemment, ben, c'est de les déresponsabiliser. Et de remettre cette pression ben, sur les arbitres ou sur les adversaires. Et je ne pense pas que c'est la bonne tactique, à mon goût.
Et toi, Jules, les déclarations de Blessine, est-ce que tu les comprends?
Moi, je ne les comprends pas. Parce que déjà, simplement, l'Union, je pense qu'ils n'ont pas trop râlé de l'arbitrage cette année. Il n'y a rien qu'à voir le nombre de penalties qui a été sifflé pour eux. Mais surtout, par rapport à ce que Carter a dit, je suis d'accord avec lui que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Si l'Union veut devenir un grand club, l'Union doit accepter ce statut de favori et cette pression. Ça fait 3 ans qu'ils montrent qu'ils ont la meilleure équipe de Belgique. Ça fait 2 ans qu'en Europe, ils montrent de grandes choses. À un moment, il faut porter ses couilles si tu veux devenir un grand club et pas parler comme ça en interview et se faire passer pour le petit pousset. C'est fini, ça. La première saison, d'accord. Maintenant, il faut arrêter.
Et j'ai envie de dire, est-ce que footballistiquement parlant, vous voyez quelque chose qu'il pourrait faire? Parce que ben, là on parle beaucoup de tension, de pression, qu'on voit des réactions, des sauts d'humeur chez les joueurs, mais est-ce que footballistiquement il y a vraiment quelque chose qui doit échanger? Est-ce que vous voyez un joueur qui devrait sortir, peut-être un changement de tactique? Carter, est-ce que toi tu as une idée par rapport à ça?
Ben, dans tout ce marasme depuis le début des playoffs pour l'Union, il y a une bonne nouvelle, c'est le retour de McAllister qu'on a parlé tout à l'heure. Encore une fois, Maurice, qui est un leader dans l'équipe, en parlait après dans cette interview d'après-match, disait voilà, il y a le retour de McAllister, et il dit, je le cite, je pense que ça nous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Il apportera ce qu'il sait faire, sa justesse dans le dernier tiers du terrain, et ça aidera beaucoup Blessing. C'est une solution pour Blessing, et pour les 8 matchs qui restent, ça peut être qu'un plus pour l'Union. Donc ces premiers changements, ou alors le premier plus que je peux voir pour les matchs restants pour l'Union.
Et toi, Jules, footballistiquement?
Moi, je sortirais Loïc Lapoussin. Je trouve simplement qu'il n'est pas au niveau cette saison. Franchement, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il ne goûte pas beaucoup plus au banc. Parce qu'il n'est pas du tout au niveau qu'il avait la saison passée. Intérieurement, je comprends pas. Il a perdu son football. Il a toujours des petits éclats de génie. Mais dans la régularité sur 90 minutes, il n'est pas au niveau simplement.
Ouais, c'est sûr que la Poppins tous les lundis à Waterloo, ça n'aide pas. Mais ouais, enfin, on voit sur le penalty, il est à la base, mais ça reste peu, enfin, par rapport à ce qu'il a montré. Et malheureusement, j'ai pas l'impression, hein, que voilà, le foot, ce soit sa priorité à 100%. Il y a beaucoup d'autres choses à côté. Et donc, est-ce que là, j'ai envie de poser une dernière question par rapport à ce match. Est-ce que vous croyez que l'Union est capable de se remettre dans le droit chemin, ou là, vous pensez que ça va être une longue descente jusqu'à la fin des playoffs à Carter?
Est capable, bien sûr qu'ils sont capables. De un, ils ont l'effectif pour, et de deux, ben, ils ont quand même montré pendant toute la phase classique qu'ils avaient l'étoffe pour tenir le rang de premier. Et donc, je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Donc maintenant, on l'a cité deux personnes passées, on en a parlé un petit peu, on en reparle maintenant. On a des doutes sur la capacité mentale et le fait de jouer en tant que favori dans une phase qui compte un peu plus que la phase classique. Mais est-ce qu'ils en sont capables? Oui, je pense qu'ils en sont capables parce que de un, ils ont la qualité. Et de deux, ils ont quand même un petit peu l'expérience de ce genre de moment. Même si l'effectif a beaucoup, beaucoup changé, il y a des cadres qui ont quand même l'expérience de ce genre de moment. Donc oui, je pense qu'ils en sont capables, effectivement.
Jules, et toi, tu penses?
Pour moi, ils en sont capables, mais il faut le faire vite parce que si défaite il y a au derby bruxellois la semaine prochaine, ça va devenir très compliqué parce que 0 sur 9 pour entamer les playoffs, ça sent vraiment pas bon.
Ouais, bah en plus, j'ai envie de dire presque que c'est le meilleur match possible qui pouvait arriver. Enfin, dans le sens, oui, s'ils perdent, là, c'est une catastrophe, mais s'ils gagnent, le fait que bah, ils ont quand même cet avantage psychologique sur Anderlecht depuis leur retour en D1A. Que c'est à l'adversaire direct, que c'est un adversaire direct qui lui aussi, je trouve, n'est pas dans une forme exceptionnelle, mais on va en parler juste après. Je pense que ce Anderlecht Union tombe à point pour l'Union et qu'il y a c'est le match pour démarrer réellement leur playoff et aller prendre leur titre qui leur tend les bras parce que on va en parler un petit peu plus tard, mais pour moi, c'est. Si l'Union perd, ce sera la faute de l'Union, ce sera pas grâce à un run d'une autre équipe, parce que c'est eux la meilleure équipe de Belgique. Donc on va passer au sujet suivant et à l'autre match entre une équipe brugeoise et bruxelloise, donc le club de Bruges Anderlecht. Donc au niveau des compos, c'était le 11 type pour Anderlecht, avec le retour de Delaney au milieu et le choix de mettre Mats Rits sur le banc pour Riemer. Par contre, du côté du club de Bruges, on avait quand même trois absents majeurs, donc Mignolet, mais c'était prévu. Mais surtout, Van Aken au milieu de terrain et Skovolsen sur le côté. Et pourtant, une victoire sans discussion, 3-1 des Brugeois avec des buts donc, de Mekeleur, un doublé d'Onyedika et pour Anderlecht, un but de Dreyer. Première question, est-ce que vous avez été surpris par le niveau affiché par le club de Bruges lors de ce match. Toi, Jules, t'as été surpris?
Non, pas du tout, parce que je pense que le club de Bruges reste un des meilleurs, si pas le meilleur effectif de Belgique, donc ça m'étonne pas qu'ils sachent sortir des gros matchs comme ça.
Carter étonné ou pas du tout comme Jules?
Ben, dans le même sens que ce que de ce que Julien vient de dire, étonné, non. Comme il a dit, ils ont peut-être le meilleur effectif en Belgique. Et ben, ces genres de performances qu'on attendait tout au long de la saison, malheureusement, il y a eu beaucoup d'inconsistances, mais pas du tout étonné. Hein. C'était un match de, en tout cas, ils ont fait un match de haut niveau. Et non, pas du tout étonné. C'est ce genre de match qu'on aurait aimé voir du côté de Bruges plus souvent, surtout en Coupe d'Europe aussi.
Ouais, c'est vrai. En tout cas, je suis d'accord avec vous dans le sens où pour moi, Bruges avait le meilleur effectif. Pour moi, c'était mes favoris pour le titre début de saison quand on comparait tous les effectifs avec Deila qui avait quand même malgré tout montré des belles choses au standard, même si ça n'a pas été un franc succès à Bruges. Mais je trouve quand même le fait qu'ils aient changé de coach, qu'ils aient la Coupe d'Europe jeudi, qu'ils aient des absents. Alors ok, ça reste le topper, c'est le gros match de la saison pour Bruges. Mais moi, je trouve, hein, le niveau pour une équipe qui joue avec un coach qu'ils ont depuis que quelques semaines. Enfin, vraiment ça impressionnant. J'ai pas vu beaucoup d'équipes faire des matchs de ce niveau et je suis pas sûr que dans les playoffs, hein, y a des équipes qui ont pas produit. Enfin, je pense que l'équipe en face, par exemple, je l'ai pas vu produire un match de ce niveau cette saison et pourtant c'est eux qui sont deuxième et qui jouent le titre. Et en parlant de l'équipe en face, Anderlecht, un match vraiment catastrophique. Donc un peu comme Lyon. C'est quoi la problème, enfin c'est quoi la problématique plutôt, c'est quoi les problèmes à Anderlecht qu'on peut peut-être voir pas que sur ce match mais peut-être sur toute la saison. Toi Carter?
Bon, moi ma réponse est plutôt sur ce match dans un premier temps, c'est que je pense que des fois dans le football on regarde beaucoup les datas, on regarde beaucoup de choses, mais des fois une réalité du terrain, et la réalité du terrain elle a parlé ce week-end, c'est qu'Anderlecht est juste plus faible que le club de Bruges sur ce match ici, et ça s'est vu, tout simplement. Ils ont été moins bons à tous les niveaux. Ils ont été complètement dominés et noyés dans le terrain qui a survolé. J'ai deux noms en tête. C'est Skoras et Onyedika qui marquent deux buts, alors que le mec ne marque jamais. Skoras qui met deux passes décisives, qui a fait un match extraordinaire. Donc, pour ce match-ci, Anderlecht a tout simplement été moins bon. Moins bon. C'est la seule chose que je peux dire.
Et toi, Jules, t'as des problèmes à pointer du côté d'Anderlecht, des problèmes récurrents?
Ben, un problème de coach et de plan de jeu, surtout, et de force offensive, je dirais. Même, c'est peut-être pas le bon mot parce qu'ils marquent quand même pas mal, mais je trouve que leur jeu est très lisible, très prévisible, et que ben, il manque un joueur ben, un peu comme Amouzou peut l'être, donc son retour va peut-être faire du bien, mais... un joueur imprévisible en fait, parce qu'un joueur comme Dreyer, ok, certes, il marque beaucoup, mais voilà quoi, il apporte pas tant que ça, je trouve. Puis il y a ce problème de changement de joueur aussi, ils ont rarement aligné un 11 type. Je pense qu'en fait, Riemer n'a même pas de 11 type en tête, et que du coup, bah, ça varie un peu quoi.
Ouais, en fait, il a une défense type, il a une attaque type, mais le milieu de terrain, c'est quelque chose qui a beaucoup, qui a peut-être beaucoup trop bougé, que ce soit avec les blessures de l'année. Il y a Varskaren qui est revenu à un moment puis qui a rechuté, que ce soit en termes de niveau ou en termes de blessures. On a même Léonie qui à un moment était incontournable puis mis sur le banc. C'est vrai qu'il y a un petit peu de voilà, il a du mal à se décider Brian Riemer, alors que de l'autre côté ben, quand tu vois l'Union je pense que tout le monde peut dire à un joueur près peut-être le 11 type. Et moi je me demande, est-ce que justement il doit changer quelque chose dans son 11 qui pourrait aider à améliorer les choses, ou est-ce que le problème est plus profond? Tu as parlé d'Amouzou par exemple, Jules. Est-ce que c'est Amouzou qui réglerait tous les problèmes, ou c'est vraiment footballistiquement le problème, c'est pas juste un problème d'homme?
Je pense pas que ce soit Amouzou qui réglera le problème, mais ça serait un joueur du type Amouzou. Des ailiers de percussion un peu qui savent prendre la profondeur, surtout parce que il n'y a pas de profondeur dans cette équipe, et c'est l'air de rien, c'est crucial dans le football. Donc c'est un problème de joueur.
Et toi Carter, on va évoquer un cas en particulier, le cas d'Olberg qui avait fait un plutôt bon début de saison, il était assez décisif, puis il a commencé à redescendre beaucoup, et là maintenant je trouve qu'il est totalement invisible dans les matchs. Est-ce que pour toi c'est un joueur qui doit sortir du 11, ou est-ce que ben, le problème c'est peut-être que son remplaçant est juste un joueur d'impact, mais peut-être pas un joueur qui peut commencer titulaire?
Ouais. Ben, pour répondre au cas d'Olberg, moi d'ailleurs son début de saison m'avait beaucoup surpris, et là je commence un peu à revoir le d'Olberg qu'on voyait beaucoup du côté de Nice, si je dis pas de bêtises. Un joueur qui est plutôt invisible dans le jeu, qui rate beaucoup d'occasions, qui est souvent manque de confiance, et aussi ben, il paye la bonne forme de ce concurrent direct qui est Dreyer, qui marque des buts et qui stats, donc c'est la réalité du terrain aussi. Mais pour réagir, rebondir sur ce que Jules a dit par rapport au cas Amouzou, on l'a parlé déjà la semaine passée, dans l'épisode de la semaine passée, je pense pas que c'est le joueur qui peut régler tous les problèmes d'Anderlecht, que ce soit offensivement ou tout simplement dans le jeu, mais il apporte une solution, ou il apporte un profil qu'Anderlecht n'a pas vraiment dans la percussion, dans la prise, dans le fait de prendre, de jouer dans les espaces, de prendre la profondeur. Et mais je pense que pour les 8 matchs qui restent du côté d'Anderlecht, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de souffle nouveau, si on peut dire ça comme ça.
Ouais, je vois, mais là en plus j'étais en train de réfléchir. C'est vrai qu'en fait Dreyer est en gros son concurrent dans le sens où c'est Dreyer qui stade beaucoup. Il joue pas à la même position, mais Dreyer prend beaucoup de spots, en tout cas offensif, en étant souvent là, bien placé pour marquer. Mais est-ce que aussi peut-être que Dolberg, on pourrait dire qu'il est mal entouré. Peut-être est-ce que c'est pas les joueurs qui sont à ses côtés, que ce soit Hazard et Dreyer, qui sont pas forcément le type de joueurs qui ont le profil pour l'accompagner. Même derrière lui, on a un milieu. Peut-être que c'est un joueur qui s'entendrait plus avec un Voorskaaren qu'avec un Léonie, peut-être plus avec un ailier comme Amouzou que Thorgan Hazard. Est-ce que pour vous, est-ce que vous pensez que Luis Vasquez peut, par exemple face à l'Union, commencer et avoir un impact? Toi, Jules, est-ce que tu penses que Luis Vasquez peut jouer un rôle en cette fin de saison?
Joue un rôle, oui, il peut. En tant que titulaire, je pense pas. Et je pense qu'il aurait fallu tester ça beaucoup plus tôt. Il y a un moment dans la saison où il était en bonne forme. Je crois qu'il enchaîne 3-4 super bonnes montées. Et à ce moment-là, il n'a pas vraiment été testé, à part une fois, je crois, en attaque à deux, il me semble, de tête. Mais il aurait fallu le tester dans ce système-là, au moment où il était en confiance. C'est pas maintenant dans la course au titre que tu te mets à changer, chambouler ton animation offensive.
Ouais, je me souviens là. Ouais, ils ont fait un match à deux devant. Je sais plus c'était contre qui, mais ouais, c'était pas fameux. Et je pense que c'est un joueur qui a quelques lacunes techniques qui peuvent ne pas trop se voir quand il rentre en impact player pour aller chercher un résultat, mais qui, quand tu démarres le match dès le début où les deux équipes sont plus ou moins au même niveau, c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, pour revenir sur Bruges, donc Bruges revient à 5 points de la tête. Ils ont aussi un quart de finale de Conference League ce jeudi. Qu'est-ce que Bruges doit faire? Donc, est-ce que le club doit se concentrer à fond sur la Conference League, sachant que ils ont un adversaire prenable sur le papier, du moins, qui sont du bon côté, c'est-à-dire pas du côté de Aston Villa et de Lille pour la route jusque la finale. Mais on voit que l'Union et Anderlecht, ça tâtonne. Est-ce qu'il faut se concentrer sur la Conference League uniquement, ou est-ce que ils sont obligés de jouer un peu les deux, et tant pis, on verra ce qui se passe. Toi, Carter, t'en penses quoi?
On en parlait tout à l'heure. De manière théorique, ils ont la qualité dans l'effectif pour jouer les deux compétitions. Surtout comme tu l'as rappelé, ils sont du beau côté du chemin jusque la finale en conférence. Et au vu des résultats d'Anderlecht et de l'Union, et au vu de la forme de l'Union et d'Anderlecht, ce serait un petit peu stupide de se dire eh bien, pourquoi on ne ferait pas les deux? Ça pourrait vraiment sauver le début de saison qu'on a vu du côté de Bruges. Et ben, comme j'ai dit au début de la qualité de l'effectif, ce serait bête de se dire, de se limiter à faire un choix, en fait.
Et toi, Jules, est-ce que le club de Bruges doit faire un choix, ou il doit jouer les deux compétitions à fond?
Je suis exactement du même avis que lui, vu l'effectif. Quand on voit les joueurs qu'il y a sur le banc ce week-end, genre Jutglà, De Kuyper, je sais pas c'est quoi l'état de Van Aken ou Skovolsen, mais dans tous les cas, il y a la place pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. Et même dans le cas où il n'y avait pas cette place, je pense que tu ne pouvais pas abandonner un quart de finale d'une compétition européenne. Et tu ne peux pas te permettre de jeter des matchs de play-off quand tu es. Là maintenant, ils sont quatrième ou troisième, mais ça ne change rien. Ils sont dans des places européennes, mais proches de devoir jouer un match contre la Gantoise pour pouvoir y aller, ou des tours préliminaires en août. Enfin, tu vois, c'est plein de choses qui font que tu ne peux pas te permettre de jeter des matchs et de perdre cette place de troisième.
Ouais, en effet. Donc maintenant, on va justement passer au classement. Donc le classement de ces playoffs 1. Donc on a premier l'Union avec 35 points, Anderlecht les Cieux aussi avec 35 points, mais il y a toujours cette différence de un demi-point. Troisième et quatrième Genk avec 30 points, qui, je pense, eux aussi ont ce petit astérisque de un demi-point supérieur. On a le Cercle avec 28 points à la cinquième place. Et l'Antwerp, dernier de ces PO1, avec 26 points et toujours pas une seule victoire. Comme l'Union d'ailleurs. Par rapport à ce classement, est-ce que le championnat est toujours une course à deux, ou est-ce qu'elle est passée à une course à quatre avec le résultat du club de Bruges et de Genk? Carter, toi, course à deux ou course à quatre?
Ben, Tu sais que selon moi, la réponse dépend de l'union de l'Anderlecht, en fait. Parce que est-ce une course à quatre, dépendamment de comment l'Union Anderlecht joueront leur prochain match. Déjà, ben, ça sera d'ici la semaine prochaine. Je pense que s'il y a une défaite d'une des équipes, ben, ça relance complètement les dés pour le club et pour Genk. Et si ben, ils prennent les choses au sérieux, je pense que ça sera qu'une course à deux.
Et toi, j'ai le course à 2, course à 4?
Pour moi, c'est course à 4, mais ça dépend. À l'inverse de Carter, pour moi, c'est pas du tout l'Union Anderlecht qui décide de ça. C'est plus les matchs du club et de Genk, parce qu'ils jouent déjà avant Union Anderlecht. C'est-à-dire qu'ils peuvent, en gagnant tous les deux, revenir à 2 points provisoirement et mettre la pression sur les deux clubs. Mais surtout que, en fait, de Union Anderlecht, il y a d'office une équipe qui va prendre des points. Donc, dans ce côté de course à 2 ou à 4, c'est plutôt les résultats du club et de Genk qui vont avoir un impact, parce que si le club et Genk qui perdent, ben, il y a une des deux équipes qui partira à 8 points, ou alors les deux à 6, mais ça, enfin, pour moi, c'est plus le club et Genk qui doivent gagner que donner de l'importance au résultat du Union Anderlecht dans cette question de course à 2 ou à 4.
Donc oui, en effet, donc pour vous le rappeler, la semaine prochaine, on aura donc Genk qui va recevoir le Cercle Bruges, le club va recevoir l'Antwerp, et Anderlecht donc va recevoir l'Union dans ce choc. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce que vous aimeriez un nul entre les deux équipes bruxelloises et une victoire de Genk et du club pour on va dire, le divertissement, et qui est se rapprocher? Donc il n'y aurait plus que 3 points. Et on serait même pas encore à mi-parcours des playoffs, ou est-ce que bon, entre guillemets, le championnat c'est joué presque tout du long entre l'Union et Anderlecht, donc ben, pour la méritocratie, ça joue entre ces deux équipes, j'ai envie de dire. Toi, Carter.
Non, l'idée c'est qu'on aimerait peut-être connaître un scénario comme on a connu la saison dernière, avec une fin à trois voire quatre équipes qui peuvent prétendre au sacre final. Donc l'idée ce serait comme de voir pour le divertissement le club et Genk se rapprocher des deux devants, jusqu'au moins à 2 ou 3 journées de la fin, voilà, pour avoir un peu de divertissement.
On vit pour ça, toi, Jules. Divertissement à 4 aussi?
Divertissement à 4, sauf si c'est Anderlecht qui va au bout, alors je préfère que l'Union gagne le championnat.
On se demande pourquoi. On se demande d'ailleurs pourquoi t'es pas venu à l'émission la semaine passée après 5-1 face à la Gantoise.
Je vois pas de quoi tu parles.
Ouais, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Ah ouais, j'ai envie de vous demander un petit peu, hein, votre petit prono. On va, ben, pour Anderlecht Union. Toi, Jules, c'est quoi ton pronostic pour le match de dimanche prochain?
Union.
Quel score?
1-2.
1-2 Union. Et toi, Carter?
Je pars sur l'Union aussi. Je pense que s'ils prennent le match serré, ils vont l'emporter. Je pars sur 1-0-2 avec un doublé d'Amoura.
0-2, double d'Amoura, c'est noté. Moi, voilà, je réfléchis. Non, je sens. Je sens le, ouais, victoire aussi de l'Union, 1-3, 1-3, et un très mauvais match de Vertonghen d'ailleurs. Peut-être là je fais juste le dernier match en fait, mais bon, c'est pas grave. Donc on va passer au dernier match qu'on va aborder aujourd'hui. Donc c'est le match de Premier League entre Manchester United et Liverpool. Donc un match nul, 2 buts partout. Diaz et Salah pour Liverpool, Bruno Fernandes et Maignan pour United. Donc un bon début de match de United, en tout cas. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon début de match, sans forcément avoir d'occasion. Mais ils se sont très vite éteints. Puis on s'est retrouvé face à un monologue de Liverpool en première mi-temps. Diaz a marqué. Onana, très bon match de sa part. Et il a évité, on va dire, que Manchester encaisse beaucoup plus de buts. Au final, on a un petit but d'écart à la mi-temps. Début de seconde mi-temps, Bruno Fernandes change le match avec un but venu de nulle part sur une erreur de Liverpool et de Kansa plus précisément. Mainoo qui donne l'avantage à Manchester United sur lui aussi un but exceptionnel. Et en toute fin de match, Liverpool pousse et égalise sur une erreur de Wan-Bissaka qui provoque un penalty marqué par Mohamed Salah. Première question, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'au vu de la première mi-temps, Liverpool ne peut s'en prendre qu'à soi-même? Et je vais demander au plus grand fan de Liverpool ou pas, Carter, de répondre à cette question.
Alors, c'est un sujet un peu délicat pour moi à aborder, parce que être objectif, c'est pas facile. Mais effectivement, si Liverpool est vraiment sérieux, normalement, Manchester doit pas voir le jour dans ce match. Si Liverpool met ses occasions au fond, et s'il n'y a pas, non, 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 des grands, il y a des grands soirs, mais c'est un après-midi, des grands jours, Allez, à la mi-temps, ça peut être facilement 0-3, 0-4. Donc, pour répondre à ta question, Liverpool aurait pu finir le match à la mi-temps. Et je pense qu'après le match, Klopp dit que si Manchester joue de la même manière contre Arsenal, il n'y a aucune chance qu'on batte Arsenal. Et il a 100% raison. Il a 100% raison.
Ah ouais, ah, j'avais pas du tout entendu cette déclat. Et toi, est-ce que Jules, est-ce que tu as été étonné par ce résultat de 2 buts partout entre United et Liverpool au vu de la forme de Liverpool ces dernières semaines?
Non, je suis pas vraiment étonné par ce résultat. Parce que United à domicile, bah, ça reste un grand club, donc capable d'aller chercher des résultats face à n'importe qui, je pense.
T'es en train de dire que c'est un peu le standard de la Première Ligue, hein, même dans une mauvaise saison.
C'est un peu ça.
Ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'il y avait eu le dernier match entre les deux équipes en FA Cup où justement United bah, a éliminé Liverpool dans un match totalement fou. Dernière question un peu sur ce match. Est-ce que ces points perdus de Liverpool dans la course au titre, est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que c'est le match où il fallait pas perdre de points pour Liverpool, sachant que bah, ils avaient leur destin entre leurs mains avant ce match? Maintenant, c'est plus le cas, c'est Arsenal. Carter.
Non, justement, au contraire, je pense que dans leur calendrier, c'était le dernier très gros match qui leur restait en Première Ligue. Et s'il y a bien un match où ils pouvaient se permettre de perdre des points, c'était celui-là. C'est le match le plus compliqué. C'est le derby d'Angleterre. C'est toujours un match un peu particulier. Et voilà. Donc, je pense que dans leur calendrier, ils n'étaient pas prévus de perdre des points parce qu'ils ont abordé le match pour le gagner. Mais s'il y a bien un match où ils pouvaient perdre des points, c'était celui-là. C'était celui-là.
Non, il reste Tottenham encore comme grand match parce que Tottenham doit affronter les trois autres,
C'est pour
enfin
ça
les
que j'ai
trois
dit gros
premiers.
match, parce que Tottenham n'est pas un grand club.
En tout cas, Tottenham est devant au classement de Manchester United et largement. Donc, je pense que ben voilà, on a passé en revue ce très beau match entre Manchester United et Liverpool et on peut passer à ce qui va arriver la semaine prochaine. On parle où il y a de grandes équipes justement et donc ben, Manchester United n'y est pas. Et donc la preview un peu de la Ligue des Champions et du match entre le club de Bruges et le PAOK en Conference League. Donc on va aller très rapidement. Bah, tout d'abord, est-ce que vous êtes hypé par la semaine européenne qui arrive? Toi, Jules, ça te hype ou pas encore?
Bah, quand il y a un Real Madrid, Manchester City et un Paris Saint-Germain-Barcelone, tu peux être que hypé. Sans oublier Arsenal Bayern en plus, mais enfin, tu peux être que hypé, c'est la Ligue des Champions, c'est hypant quoi.
Et toi, Carter, hypé par... Il n'y a pas Manchester, mais bon.
Ouais, évidemment, hypé, c'est des quarts de finale qui ont un peu un goût de Super League. De Super League, avec des très gros matchs, des très belles confrontations. Je pense qu'on verra, ou du moins j'espère qu'on verra de beaux matchs avec beaucoup de spectacles.
Ouais, c'est vrai que là, c'est que des gros, honnêtement. Ben, en même temps, vu la gueule des huitièmes de finale, qui, waouh, perso, si ça m'a pas beaucoup hypé, ben, on se retrouve avec des très, très gros quarts de finale. Donc, on va passer chaque match en revue et ben, je vais vous demander vos pronos. On va commencer par vos pronos pour le match aller et pour la qualification. Donc, on va commencer par les matchs de mardi. Arsenal-Bayern, donc qui va remporter le match aller et qui va se qualifier pour toi, Carter?
Moi, contrairement à beaucoup de personnes, je vois Arsenal se qualifier et je les vois gagner le premier match à domicile sur la petite petite démarche, 1-0 ou peut-être 2-1. Et encore, je ne vois pas encaisser de but, donc je resterai sur mon 1-0 et je les vois se qualifier.
Ça va, je pense que chaque week-end, il y a de plus en plus de personnes qui pensent que Arsenal va gagner au vu des résultats de Thomas Tuchel. Et toi, Jules, pour le match Arsenal-Bayern?
Même avis, je pense qu'Arsenal va passer. Mais il faut quand même faire attention au Bayern, mais Arsenal par favori.
Moi, je vais vous suivre sur ce match-là, Arsenal favori, mais ça va pas être une balade pour les Gunners, parce que même si le Bayern est très, 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 très mauvais cette saison, ça reste Ligue des Champions, une compétition à part. Donc le deuxième match, peut-être le choc de ces quarts de finale, ça va, c'est juste la troisième fois d'affilée qu'on a ce match, donc entre le Real Madrid et Manchester City. Pour toi, Jules, bon. Je connais la réponse, mais qui va se qualifier et qui va gagner le match aller?
Je pense qu'il y aura un match nul au match aller et une qualification de City au retour.
Ah ouais, donc comme l'année passée, quoi.
Ouais, un peu
Et
même scénario.
Ouais, sans but de problème cette fois-ci.
Ah,
Et
avec un
toi,
doublé.
ouais, ça doit être ça. Et toi, Carter, Real Madrid, Manchester City, tu le vois comment?
Pour le match aller, je vois City gagner, mais au contraire, pour la qualification, je vois le Real passer. C'est vraiment leur compétition. Ils ont l'ADN de cette compétition, ils ont l'effectif pour aller au bout. Et je pense qu'ils bon, ils passeront ce tour-là.
Donc tu vois City gagner au Bernabéu demain, mais se faire éliminer chez eux?
Exactement,
Ah,
exactement.
c'est osé, c'est osé. Ah oui, il faut rajouter d'ailleurs que Walker et Ake n'ont pas fait le déplacement et que Gvardiol est incertain d'après Pep Guardiola. Voilà, petite précision. Et moi, évidemment, en parlant de mon club de cœur, Real Madrid, je les vois gagner évidemment au Bernabéu demain. En plus, apparemment, ils ont demandé pour fermer le toit, pour qu'il y ait une vraie ambiance de feu. Le stade sera tout blanc. Honnêtement, je suis un hater de Carlo Ancelotti, mais demain je fais la paix et je sais qu'ils vont le faire et qu'ils vont se qualifier. Maintenant, on va passer peut-être au plus petit des quarts de finale entre l'Atlético et Dortmund. Jules, toi, tu le vois comment, Atlético Dortmund
Je vois Dortmund passer et gagner. Je pense qu'ils vont gagner les deux matchs.
Ah ouais, carrément.
Ouais.
Ouais, et toi, Carter?
On en parlait déjà la semaine passée. Et pour ceux qui ont écouté l'épisode, ben, j'ai pas changé d'avis. Selon moi, l'Atlético va passer. Et je vois un match nul au match aller. Et au match retour, je vois un match à la Simeone. Un match à la Simeone avec un but soit au début du match, soit à la fin du match, avec une domination totale sur l'adversaire qui est Dortmund. Tactique, en tout cas, domination tactique en tout cas.
Ouais, pas footballistique,
Ouais,
ça
voilà.
sans doute.
Ouais.
Moi, perso, je vois Dortmund hein, se qualifier aussi. Hein. Je suis de la même team que Jules. Mais comme on l'a dit la semaine passée, c'est une équipe qui joue pas très très bien au foot. C'est une équipe qui n'a pas un fond de jeu non plus exceptionnel. Et je pense que c'était les pires équipes à Atlético. Il faut qu'il y ait une équipe avec des vraies idées de jeu pour les empêcher de jouer. Mais là, il n'y aura rien à empêcher de jouer. Du coup, je ne sais pas comment ils vont faire. Et enfin, le dernier choc, qu'on a aussi vu pas mal de fois entre le PSG et Barcelone, le retour de Luis Enrique, de Ousmane Dembélé, peut-être le dernier match sous le maillot du PSG face au FC Barcelone de Kylian Mbappé. Carter, tu vois qui sortir?
Ben, c'est le match le plus difficile pour moi pour lequel se prononcer. J'ai vraiment du mal à avoir une équipe au-dessus de l'autre. Alors, je pense que en termes de qualité, en termes de résultats, en termes de fond de jeu, en termes de force, le PSG au-dessus. Mais dans une grande compétition comme ça, le Barcelone a quand même aussi cet ADN des gros matchs, même si ces dernières saisons, ça s'est pas trop vu. Pour le match aller, je vois le PSG s'impose à domicile avec un but de Kiki. Mais allez. Je pense que Barcelone va quand même sortir de ce quart de finale et sceller la fin de l'aventure de Mbappé dans la capitale française.
C'est osé, c'est osé. Et toi, Jules, tu te sens comment?
Moi, je pense que Barcelone est favori, mais j'ai un pressentiment que la Noisette, là, il va faire des exploits individuels. PSG qui a pas d'occasion, un sac classique, là, et il se qualifie là-dessus.
Mais franchement, moi en tout cas de mon côté, c'est un match, je sais pas quoi en penser. Quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, ah, c'est un bon tirage pour le Paris parce que on a vu les difficultés de Paris. C'est les équipes qui savent mettre un impact physique, comme on a vu avec Newcastle, on l'a vu avec Milan, et que Barça, c'est pas vraiment ça. Mais le Barça revient bien ces dernières semaines. Mais de l'autre côté, Paris a tellement un meilleur coach. Que moi, je vois Paris se qualifier, je les vois gagner à l'aller parce que ce sera à la maison, et je les vois aussi gagner parce que ils ont peut-être le meilleur joueur du monde, donc pas forcément cette saison, mais en général, c'est quand même lui le meilleur joueur du monde. Donc moi, je vois Paris se qualifier. Et maintenant, on va terminer par le match qui nous intéresse le plus, ou pas, enfin, je ne sais pas, le match belge en Coupe d'Europe, donc le match entre le FC Bruges et le PAOK, donc le PAOK qui sont leaders du championnat grec. Ils ont atomisé. Lors des huitièmes de finale, le Dinamo Zagreb, après une défaite 2-0 à l'aller, ils ont remporté le match retour chez eux 5-1. Ils ont fini premier de leur groupe aussi, largement devant Francfort, avec 5 victoires et un nul. Donc Francfort qui avait été éliminé par l'Union. Donc match aller à Bruges, match retour en Grèce. Toi, Jules, est-ce que tu penses que Bruges peut passer ce quart de finale?
Franchement, je ne vais pas faire le connaisseur du PAOK, j'ai pas regardé un match de saison. Donc, c'est difficile de se prononcer sur le niveau de cette équipe. Après ce que tu annonces, ça fait peur, mais j'ai comme envie d'y croire pour Bruges. Je me dis qu'ils sont capables. Ils ont l'expérience de des compétitions européennes avec déjà des beaux parcours en Ligue des Champions. Donc, ils feront la différence.
Et toi, Carter, tu penses que Bruges peut le faire?
Peut le faire, oui, mais attention, il faudra pas sous-estimer l'adversaire. Le PAOK sort comme une très 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 belle saison. T'as énuméré un peu leur parcours en Coupe d'Europe, mais également en championnat, où ils sont dans une course au titre qui est un peu effrénée. Je pense qu'il y a 4 points entre eux et les quatrièmes, mais malgré tout, ils tiennent tête. Et faudra pas les sous-estimer. Ça sera, je pense, deux belles rencontres, deux belles confrontations. Bon, on espère que Bruges passera quand même.
Ouais, en effet, c'est vrai qu'il y a aussi, j'ai l'impression en regardant, c'est qu'ils ont une sorte de système de play-off sans la division dépend par deux. Apparemment, on peut le faire et c'est vrai qu'ils sont premiers avec 4 points d'avance sur le quatrième. Donc, t'as le PAOK, l'AEK, le Panathinaikos et l'Olympiakos. Donc, l'Olympiakos qui avait éliminé Genk, d'ailleurs, je me souviens, en préliminaire. L'AEK Athènes qui avait été éliminé par l'Antwerp. Donc, ça veut dire que c'est quand même un championnat plus ou moins du même niveau. Et aussi, ce que je remarque, c'est qu'ils n'ont pas joué ce week-end. Enfin, ils devaient jouer aujourd'hui plutôt. Non, ah si, ils ont joué ce week-end, j'ai rien dit. Ils ont joué ce week-end face à l'AEK, ils ont fait match nul, 2 buts partout, et ils ne joueront pas entre les deux matchs face à Bruges, le match face à l'Olympiakos. Donc, j'imagine que ça a été adapté pour qu'ils puissent être un peu reposés. Et petite question, est-ce que vous allez regarder aussi l'Europa League? Parce que l'Europa League aussi, il y a des matchs plutôt pas mal, il y a quand même pas mal de grosses équipes qui restent. Il y a Milan, Roma, il y a Leverkusen, West Ham, Liverpool, Atalanta, Marseille, Benfica. Est-ce que vous allez regarder, toi, Carter, tu vas regarder l'Europa League ou?
Oui, bien sûr, je regardais l'Europa League. Il y a une équipe que j'affectionne beaucoup cette saison, malgré des résultats qui sont plus que mitigés, c'est l'Olympique de Marseille, avec un effectif de joueurs qui me plaît beaucoup. Donc forcément, je poserai devant le match. Et je pense que ce sera une belle confrontation, parce que c'est une belle équipe de Benfica avec des joueurs qu'on connaît un peu tous. Donc je me poserai devant ce match-là en particulier, c'est sûr.
Ouais, quand tu parles d'effectifs que tu aimes bien, tu veux parler de chance LM, ben, tu peux
Oui.
le dire.
Je ne vais pas le dire, mais merci de l'avoir dit à ma place.
Et toi, Jules, tu vas regarder un peu l'Europa League ou pas du tout?
Bah, pas du tout, mais c'est parce que le Bruges joue à 21h et tous les matchs de l'Europa League sont aussi à 21h, donc je pourrais pas regarder parce que je vais regarder, enfin, je vais plutôt regarder Bruges, quoi.
Ah ouais, c'est vrai, ça c'est pas pratique. C'est vrai qu'il y a tous les deux compétitions en même temps et ouais, les matchs sont à 21h. Mais ouais, moi, en tout cas, autant Europa, je vais pas cacher que Conference League Europa League, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Je pense que tu peux mettre Real Madrid Barcelone en poule d'Europa League, je vais pas le regarder. Mais là, les affiches de l'Europa League, elles me hype. Et franchement, j'aimerais bien voir un petit Bayer Leverkusen Milan en demi-finale. J'aimerais bien. Donc maintenant, on va terminer l'émission par, comme d'habitude, le question-réponse des abonnés. Donc on poste un tweet sur le compte Twitter, Let Me Talk Off. Et on prend quelques questions sous le tweet pour y répondre. Donc, on va commencer par Lo. Pensez-vous que le système de play-off a un réel impact sur les performances des équipes? Justement, on en a un petit peu parlé. Toi, Jules, je vais te laisser répondre à cette question.
Je pense que oui, c'est évident que ça a un impact. Après, la question c'est est-ce que l'impact il est positif ou négatif? Mais un impact, je suis sûr et certain qu'il y en a un.
Ouais, et toi, Carter
Mais c'est indéniable qu'il y a un impact. Je pense que pour ceux qui sont dans le peloton de tête et qui, entre guillemets, perdent des points d'avance, il y a un impact parce que ça rajoute plus de pression. Et pour ceux qui sont derrière, ça remet un peu, enfin, ça redistribue un petit peu les cartes, d'avoir moins d'écart entre eux et ceux qui sont devant. Donc forcément, ça a un impact sur les performances. C'est indéniable.
Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire, hein. C'est un impact, on le voit, et c'est un impact double. Autant des clubs comme l'Union ou même Anderlecht, au final, peuvent avoir un petit peu plus de pression, parce qu'au final, ils ont été toute la saison en tête, et là, maintenant, c'est le titre qui va jouer, et des équipes comme le Cercle, qui peut-être, sans cette division par deux, bah, le Cercle n'aurait plus rien à jouer, ou Genk, ou Bruges, mais là, avec la division des points par deux, au final, ils n'ont rien à perdre. Eux, ils étaient quand même cinquième, s'ils finissent troisième, tant mieux, on peut jouer libéré, donc... Ouais, ça a un impact positif et négatif. Donc la seconde question de Alex Mogli Simba. Que pensez-vous du 0 sur 6 de l'Antwerp? On l'a évoqué très rapidement. C'est vrai que l'Antwerp fait un début de play-off assez catastrophique avec deux défaites face à Anderlecht à Genk. Ils ont perdu aussi leur gardien pour toute la saison qui a dû se faire opérer. Jules, toi, t'en penses quoi?
Moi, je ne suis pas vraiment surpris de ce 0 sur 6, surtout quand on voit les scénarios des matchs où ils perdent 2 fois à 0, mais il y a la rouge Anderlecht qui est un peu bizarre, puis il y a le banger d'Anorait Elhadj à Genk, mais je pense qu'avec le mercato hivernal, ils ont un peu tué le peu de chances qu'ils avaient de performer en playoff.
Oui, après, en plus, il n'y a pas eu d'exemple de l'année passée de peut-être vendre ton meilleur joueur au mercato d'hiver. C'est peut-être pas la bonne idée. Et toi, Carter, qu'est-ce que tu en penses de ce 0 sur 6?
Ben, je rejoins vraiment ce que vous dites. Hein. C'est pas la même idée de vendre le meilleur joueur que tu avais cette saison pendant le mercato d'hiver. Et c'est pas surprenant de les voir à ce moment-là de la saison à faire un 0 sur 6. Enfin, c'est un peu à l'image de leur fin de saison, donc rien de surprenant.
Et débat parallèle, Van Bommel, vous le voyez continuer la saison prochaine, malgré ses quelques difficultés cette saison? Carter.
Je pense que le board de Lantor va quand même se renseigner pour voir s'il n'y a pas d'autres possibilités sur le marché, parce que je pense qu'il peut quand même avoir mieux pour Lantor.
Parce qu'au final, ils ont eu un titre, enfin deux titres la saison passée, enfin même trois en fait, si tu comptes la Supercoupe, qui n'était pas attendue. Il reste en finale de Coupe de Belgique bah, contre l'Union, d'ailleurs, le mois prochain, ouais, dans un mois et un jour, d'ailleurs. Voilà, c'est compliqué. En plus, bah, tu sais qu'il y a une attache néerlandaise dans le club, évidemment, avec le directeur sportif et tout ça.
Il ne faudra pas oublier non plus le parcours catastrophique qu'ils ont fait en Champions League, et j'espère que ça comptera quand même à la fin de la saison dans le bilan.
Ils ont battu le FC Barcelone, et moi... Ça me suffit. On va passer maintenant à la troisième question de Jérémy Lenoir 5. Comment va-t-on faire pour gérer autant d'ailiers si prometteurs? Doku, Bakayoko, Mika Gauts, Julien Duranville, Fofana, etc. Et serait-il intéressant pour certains d'entre eux de changer de poste? Je vais commencer par toi, Jules.
Moi, je pense que, il l'a dit dans la question, ils sont prometteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont confirmer. Donc, il faudra voir ce qu'ils vont donner parce que, à part Doku et Bakayoko qui confirment un peu, le reste, ça reste que vraiment des espoirs. Changer de poste, je pense pas. Il y a certains joueurs cités qui savent jouer à plusieurs postes, mais ils doivent pas forcément apprendre de nouveaux postes. Je pense que s'il y a besoin, ils dépanneront, mais que leur style de jeu convient mieux au poste d'ailier, donc il n'y a pas vraiment de raison de changer. À part Mika, peut-être. Mika, pour moi, c'est peut-être plus un 10 qu'un ailier. Mika Gauts, du coup. À part ça, ouais. Non.
Mais bon, pourquoi changer quand le futur meilleur joueur du monde va arriver plus ou moins dans cette position dans quelques années? Et toi, Carter, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette question?
Pour répondre à la question, comment faire pour gérer autant d'ailiers si prometteurs? Mais dans le cas où ils atteignent tous leur potentiel, on ne va pas se priver d'avoir un luxe à ce poste-là. C'est bien. C'est bien, s'ils confirment tous, c'est bien, et on avisera sur le moment-même. Et est-ce qu'il serait intéressant pour s'entourer de position? Je pense pas. En plus, ils ont tous des profils plutôt similaires. C'est tous des purs ailiers, à part, comme il l'a dit Jules, Mika Gauts, qui peut évoluer en position numéro 10. Quand je regarde les noms qui sont cités, c'est vraiment tous des ailiers, à part peut-être, je pense, Fofana, qui un jour peut-être pourrait évoluer au centre de l'attaque en faux neuf, s'il se muscle un petit peu, il a les qualités pour le faire en tout cas. Et le reste, et encore, c'est peut-être si c'est nécessaire, mais changer de position, je pense pas que ce serait une bonne chose.
Ouais, moi je vous rejoins, et puis au final, ok, on joue avec deux ailiers, mais t'as besoin de deux joueurs pour les concurrencer. Si on a les. Donc là, c'est quoi? C'était 5. Si on a 5. Ces cinq joueurs-là atteignent leur potentiel, tant mieux pour l'équipe nationale. Et ok, il y en a deux qui commenceront, il y en aura deux qui pourront les remplacer, même trois. Il n'y a aucun souci. Enfin, on voit une équipe comme la France qui, par exemple, la Moussa Diaby, il vient juste quand il manque des joueurs. On voit que Kingsley Coman et Dembélé, donc qui jouent au Paris Saint-Germain et au Bayern Munich, il y en a toujours un des deux qui est sur le banc. Donc pour moi, c'est pas un souci. Tu n'as pas besoin de changer de poste. Si c'était peut-être des latéraux ou des centraux, on aurait pu penser à changer de poste selon les besoins ou pas du poste, enfin de l'autre poste, mais là, je vois pas de raison. Et enfin, pour terminer, une dernière toute petite question de Ilias. Il est plus pour Jules, c'est là, celle-là. Les équipes de jeunes belges pour les qualifs à l'Euro, c'est comme l'équipe A où si t'es pas en forme, tu joues pas, ou alors ils essayent de faire jouer tout le monde.
Alors, ça dépend surtout des coachs. Par exemple, en U17, ils changent pas du tout l'équipe. Quasi, je pense qu'il y a 12 joueurs qui ont démarré dans les 3 matchs de Tour Elite. Donc, il varie vraiment pas. Il a son 11 type, et même en U16, c'était le même 11 qui est monté en U17. Il a quasi rien changé. À part quand, ben, du coup, Lino de Cresson s'était blessé, il a été remplacé vu que c'était les croisés, mais il est déjà de retour dans le 11 type. À part ça, là-bas, il n'y a pas trop de changements. Sinon, en U19, où il y a des joueurs qui jouent en équipe première et tout ça, je pense que ça joue beaucoup l'expérience du niveau professionnel. Et pour moi, c'est le bon choix, c'est de faire jouer les joueurs qui jouent en pro, même s'il y a des joueurs plus talentueux potentiellement. Si derrière, ils ne jouent pas en équipe première, ben, ça ne sert à rien. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Noam Bamba, qui était en U19 depuis 2 ans et qui est seulement monté en U21 maintenant. Tu vois, il est talentueux, mais derrière, quand tu ne joues pas en équipe première, enfin maintenant il est au Bayer Leverkusen, c'est encore différent, mais s'il ne jouait pas en équipe première de Bruges, ben, même si tu es talentueux, derrière, ça ne sert à rien, quoi. Donc c'est surtout le temps de jeu en équipe première qui prévaut dans les équipes où il y a des joueurs qui jouent en équipe première.
Ça va. Donc, ben voilà, on arrive à la fin de ce quatrième épisode. Donc, on sera de retour la semaine prochaine pour évidemment valider tous les pronoms que j'aurais fait pour la Ligue des Champions. Ben, les gars, j'ai envie de vous dire d'abord, ben, merci pour cette émission.
Bah écoute, merci à toi. C'est toujours un plaisir de participer dans ce projet. Donc, merci à toi, Patrick. Et merci à toi, Jules, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ben, merci à vous deux et Patrick. Pleure pas trop demain quand De Bruyne aura mis un but. J'attends ton tweet avec impatience.
Demain, je serai l'homme le plus heureux du monde, sachez-le. Donc, ben, sur ce, on vous laisse. On vous retrouve la semaine prochaine, même horaire. Donc, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.